Chapitre 41. Un craquement dans la nuit. Frank se redressa d'un bloc dans son lit. Il resta un temps figé, se demandant si le bruit ne provenait pas de son cauchemar. Dans son songe, il marchait à la surface de l'eau, sur un lac entouré de croix où toutes sortes d'animaux de la forêt étaient crucifiés. Hormis la lourde et lente respiration de Lucie, il n'y avait pas un murmure. Il hésita à se recoucher. Son sommeil était pour le moins perturbé dernièrement, mais il savait qu'il ne réussirait pas à se rendormir s'il n'allait pas vérifier avant. Décidé, il chassa les draps et se glissa dans la pénombre. À travers les persiennes, le croissant de lune crachait une lumière d'un blanc de linceul qui se répandait jusqu'aux abords du couloir. Plus loin, Charcot eut l'impression qu'on lui plaquait des glaçons sur la nuque. Un tel froid n'était pas normal. Pieds nus, silencieux, il se dirigea vers le salon. Remarqua tout de suite que la caisse du chien était vide.
« Janus, viens là, mon beau. »
« Rien. » Il jeta un œil derrière les fauteuils et s'arrêta net. Son cœur cogna comme une enclume dans sa poitrine. La fenêtre était ouverte. Le battant de droite oscillait légèrement et frappait le rideau sous l'effet du vent. Retenant son souffle, il scruta les ombres des meubles, des objets. Où se cachaient les pagnoles? Pourquoi n'avait-il pas aboyé? Il fouilla le jardin du regard. Ne distingua rien d'autre que les silhouettes des cyprès qui s'agitaient, le chuchotement de l'air dans la pelouse, la laine mentholée de la nuit.
« Janus !»
Toujours rien. Le chien avait disparu. Charcot ne comprenait pas. Au moment où il toucha la poignée de la fenêtre pour la refermer, un éclair de douleur lui foudroya l'épaule. Il poussa un cri et fit volte-face. Mais il n'y avait personne dans la pièce.
« Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»
Il songea à Nebraza, à Calvar et à leur corps meurtri de cicatrices. Les diables. Puis il palpa son muscle, qui lui paraissait étrangement intact. Et tandis qu'il était là, immobile et un peu perdu, il sentit de la chaleur sur le dessus de son crâne. Il effleura ses cheveux du bout des doigts, une substance visqueuse rougeâtre, du sang. Il regarda aussitôt vers le haut et tomba à la renverse. À 1 mètre environ, au bord d'un trou sombre dans le plafond, des yeux rouges le fixaient au centre d'un visage qui semblait fait de cuir. Les os des mâchoires saillaient. La tête monstrueuse oscillait sur un corps velu, noir, d'où jaillissaient 8 pattes inégales, brisées, terminées par des pointes brillantes, comme en kératine. La bête se raidit. Sa mandibule dévoila plusieurs rangées de dents capables de trancher les chairs, puis elle ouvrit la bouche jusqu'à révéler le fond de sa gorge, où apparut Audra, qui essayait de hurler. Frank se réveilla en sursaut, haletant et trempé de sueur. Il lorgna autour de lui, et il lui fallut bien 10 secondes pour se rendre compte que tout ça n'était pas réel. Un cauchemar imbriqué dans un autre. Le radio-réveil indiquait 4 heures. Il se leva, son corps chaud enveloppé d'un frisson, et alla boire un verre d'eau, pas vraiment rassuré. Et dire que ce n'était qu'un rêve. Nebraza, Calvar et Dubois, eux, voyaient en permanence ces démons abominables. Un véritable supplice. Impossible de retourner se coucher. Alors Charcot finit la nuit devant son ordinateur à se renseigner sur le territoire du néant, laissant une veilleuse allumée. Non qu'il eût encore peur, mais ce cauchemar l'avait tout de même ébranlé. Ses recherches au sujet du bar eurent le mérite de le distraire. En revanche, elles ne lui apprirent pas grand-chose de plus que ce que Pascal avait raconté. Établissement fondé 10 années plus tôt. Façade style entrée de train fantôme, serveur habillé en croque-mort, table en faux ossements décorée de cierges funéraires, jeux et spectacles sur le thème de la grande faucheuse, et même un espace de frayeur extrême au sous-sol. L'endroit brassait tout type de visiteurs, curieux, réguliers, jeunes, moins jeunes. Tant mieux, il passerait d'autant plus inaperçu. À l'aube, Lucie partit avant lui pour le 36. Elle allait poursuivre avec Pascal l'audition de Calvar, et ils se retrouveraient au début de l'après-midi pour préparer leur incursion au territoire du néant. Frank, lui, choisit ses vêtements pour la circonstance. Il opta pour un jean et un pull à col roulé noir, de vieilles chaussures coquées, stockées dans un placard depuis des lustres, ainsi qu'un manteau trois quarts. Ce matin-là, il ne se rasa pas. Et en conduisant les jumeaux à l'école, il leur expliqua que Jaya s'occuperait d'eux toute la soirée. Il les embrassa fort et leur dit qu'il les aimait. Préféra ensuite ne pas s'attarder devant la grille de la cour de récréation. Il sentait son cœur se gonfler de tristesse. Lorsqu'il rejoignit son véhicule, il écouta le message vocal qu'il venait de recevoir. « Putain !» C'était comme s'il avait reçu un uppercut. Il rappela immédiatement le numéro, discuta un peu et prit dans la foulée la direction de Rouen. 2 heures plus tard, il était à l'accueil de la gendarmerie de Louviers, dans l'heure. Le brigadier Bruno Lamarque l'y attendait dans sa tenue réglementaire. Environ 25 ans, calot sous le bras, la coupe militaire qui donnait une forme cubique à sa tête de jeune premier, façon Playmobil. Il observa Charcot avec étonnement. Il ne semblait pas certain qu'il s'agissait de la bonne personne, avant de le saluer et d'entrer dans le vif du sujet. « Je vous emmène là-bas ? J'ai informé la propriétaire de l'immeuble qui doit déjà être sur place. Allons-y. Vous avez pris des gants pour moi ?» Son confrère sortit une paire de gants en latex qu'il lui tendit. Une fois qu'ils furent installés dans la voiture de fonction, il démarra. « Je suis désolé qu'il ait fallu tout ce temps avant de vous prévenir, mais je suis rentré de congé ce matin. Je viens d'être papa, » fit le gendarme avec un sourire. « Félicitations. Garçon ou fille ?» Un beau petit mec, merci. Un gars timide qui manque d'assurance, songea Franck, mais qui suscite une vraie empathie. J'ai immédiatement appelé quand j'ai parcouru le télégramme que votre état-major a envoyé il y a une quinzaine de jours. Cette femme découverte dans les bois, quelle horreur. Vous avez peut-être fait la route pour rien, mais la fourchette d'âge, la couleur des cheveux, la taille approximative du corps correspondent. Ce n'est pas grand-chose, mais... je me suis dit que ça pourrait être elle, votre victime, je ne sais pas, une étrange intuition. Vous avez bien fait. Il faut toujours se fier à ses intuitions. Réexpliquez-moi comment ça s'est déroulé de votre côté. J'ai revérifié certains détails avant votre arrivée. Ma brigade a été sollicitée le 24 octobre par le voisin du dessous d'une certaine Corinne Durieux, qui vit dans un immeuble pas loin du centre-ville. Un truc banal. L'homme se plaignait d'infiltration d'eau dans son plafond et affirmait que Madame Durieux refusait de lui répondre quand il allait frapper chez elle, y compris tard le soir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On contacte la gendarmerie. Regard complice, nouveau sourire, l'énergie des débuts. C'est moi qui ai reçu l'appel. Je lui ai dit de se calmer, j'ai expliqué qu'on ne s'occupait pas de ça, mais il m'a boyé dessus et a proféré des insultes. Je me suis donc déplacé. Davantage pour lui apprendre le respect que pour son problème de fuite. D'autant que franchement, il n'y avait rien de dramatique, quelques taches d'humidité dans un coin. Par acquis de conscience, j'ai quand même glissé un mot sous la porte de Corinne Durieux, lui demandant de me contacter dès que possible. Ils passèrent au-dessus de l'heure, au lit bien gonflé à cause des pluies récentes. Le brigadier longea un lycée et prit la direction du centre de Louviers. J'ai attendu une semaine... et comme je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai fait des recherches. J'ai téléphoné au propriétaire du logement de Durieux. Rien à signaler au niveau des loyers, pas de retard. Je lui ai alors parlé de cette histoire d'infiltration ainsi que du silence de sa locataire pour qu'il accepte de me faire entrer sans paperasse officielle. Il poussa un soupir. Franck y perçut le poids de ses regrets. Elle vivait seule? Il semblerait, oui. Une fois chez elle... on n'a rien trouvé d'anormal. La fuite ne venait même pas de là. Enfin bref, dans l'appart, tout était en ordre. Je veux dire, hormis son absence prolongée, il n'y avait aucune raison de s'alarmer. J'avais aussi pris soin de jeter un œil au fichier des immatriculations, et sa voiture n'était pas garée dans les alentours. Corinne Durieux était majeure et vaccinée. Rien n'empêche les gens de partir en vacances ou dans de la famille. Ça n'aurait pas eu de sens de lancer une procédure pour disparition inquiétante. Je comprends. Après avoir contourné le parc, le gendarme se gara devant un immeuble. Façade blanche et balconnée qui donnait en contrebas sur un modeste carré d'herbe. Charcot et lui rejoignirent le propriétaire avec qui ils grimpèrent au 3e et dernier étage. Frank avançait en silence, la gorge serrée. Il était possible que ce soit un coup d'épée dans l'eau, mais il espérait de toutes ses forces que le jeune ait eu un bon feeling. Arrivé devant la porte, ils se la firent ouvrir. Le mot, glissé par le brigadier, reposait toujours au sol, au niveau de l'entrée. Frank passa sa main sur le radiateur dans le hall. Il était tiède. Dans le salon, il enfila ses gants et s'empara d'un cadre accroché au mur. Il s'agissait d'une photo agrandie de Corinne Durieux, sourire franc, teint hâlé. Des détails dans le visage le perturbèrent. Le nez trop long et un peu de travers, une bouche trop ronde et trop petite par rapport au reste. Le cliché avait été pris devant une immense frégate en rade de Toulon, sans doute. Se dressait fièrement à ses côtés un homme d'environ 25 ans, en uniforme de la marine. Il y avait un fort air de ressemblance entre eux. Probablement son fils.
Alors ? Demanda Lamarck.
Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais le corps était de toute façon trop abîmé lorsque nous l'avons déterré pour que je sois en mesure de l'identifier formellement.
Frank saisit son téléphone qui vibrait. Gecko. Il ne répondit pas, préférant focaliser son attention sur un meuble qui accueillait un tas de bibelots vieillots. Corinne Durieux vivait dans la simplicité, rien de clinquant, décoration minimaliste et d'un autre âge. Pas de compagnons, même pas d'animaux, la proie idéale pour un prédateur sexuel du type de Fermont. Il fouilla les tiroirs où il dénicha des papiers administratifs rangés dans des pochettes colorées. Facture, entretien voiture, logement. L'une d'elles l'intéressa tout particulièrement, médical. Il la sortit, la déposa sur la table du salon et l'ouvrit. « Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? » questionna le brigadier intrigué. Frank s'était figé devant le paquet de grands rectangles translucides en noir et blanc. Il prit la feuille du dessus entre ses mains et la dirigea vers la lumière. Il s'agissait d'une radiographie de la hanche. Le deuxième cliché était un gros plan sur la partie droite, au niveau du col du fémur, dont les contours étaient irréguliers, comme rongés.
« C'est bien elle. C'est notre victime.
Vous pouvez lire ça sur des radios, vous ?»
Le commandant éprouvait un soulagement mêlé d'une profonde tristesse. Il l'avait enfin retrouvée. Corinne Durieux n'était plus seulement un cadavre, mais une femme avec un visage, une identité. Une femme qui laissait derrière elle un ou plusieurs enfants. Son assassin ne pourrait jamais être jugé, ni puni. Une injustice contre laquelle Frank ne pouvait rien faire. Avec le gendarme, ils rejoignirent le propriétaire à l'entrée de l'appartement.
« Je vais vous demander de ne plus pénétrer ici jusqu'à nouvel ordre », déclara Charcot. « Je vais faire envoyer une équipe qui va procéder à des relevés ADN notamment, et qui va saisir des éléments utiles pour notre enquête. Il faudra juste venir leur ouvrir. Probablement demain dans la journée.
« Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquit le propriétaire. « Il est arrivé quelque chose à Madame Durieux ?»«
Je crains que oui. »
Frank et Bruno Lamarck reprirent ensuite la route. Le brigadier roulait sans décrocher un mot, les mâchoires serrées, les mains crispées sur le volant.
« Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit Charcot pour le rassurer.
« Je ne crois pas. J'aurais dû m'inquiéter davantage. J'ai vu que vous aviez touché les radiateurs. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Si elle était partie plusieurs jours de son plein gré, elle aurait coupé le chauffage. »
« C'est le genre de réflexe qu'on acquiert avec l'expérience. » Mais dites-vous que sans votre intervention, on n'aurait peut-être jamais pu identifier notre victime. Vous êtes un intuitif, vous savez. Il faudra que vous exploitiez cette qualité à l'avenir, et peut-être ailleurs que dans ce trou. C'est une grande avancée dans notre enquête. Alors rien que pour ça, merci.
Le gamin hocha la tête avec un mince sourire aux lèvres.
Vous ne m'avez pas dit, comment vous avez su que c'était elle ?
Tout part d'une intuition, là aussi. Un bout d'os, un simple bout d'os.
Ils se saluèrent sur le parking de la gendarmerie. Frank le regarda s'enfoncer dans ce bâtiment laid, au mur qui aurait mérité une bonne couche de peinture. Au 36, ils avaient des moyens, des ressources, des équipes qui se tenaient prêtes à réagir. Mais partout ailleurs, c'était la misère dans les commissariats et les brigades. Quand il s'enferma dans l'habitacle de sa voiture, Il repensa à ces jeunes années. Cette époque était tellement loin. Les temps avaient changé, et pas franchement bien.
Certainement en partie à cause de ces saloperies de portable, songea Frank en sortant le sien qui vibrait de nouveau dans sa poche.
Encore Gecko, qui venait cette fois de lui envoyer un SMS.
« Jamais tu réponds, bordel. Achète le Parisien et amène-toi, c'est la merde. »